à certaines désillusions en interne. On pourra y revenir. Bien. Alors, comment maintenant ?
Il me reste
5 minutes. Bon. Comment pratiquer cette valorisation monétaire ? Il y a plusieurs méthodes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces techniques, mais en gros, il y a ce qu'on appelle, ce que les économistes et statisticiens appellent la méthode de l'output. C'est-à-dire qu'on prend les services qui sont réalisés grâce aux bénévoles. Et là, on leur affecte une valeur monétaire à partir de la valeur monétaire des services similaires qui sont vendus sur le marché. Ensuite, on déduit de ces services les consommations intermédiaires, on en déduit éventuellement l'amortissement du matériel, on en déduit les salaires des salariés qui contribuent à ces services, et ce qui reste, c'est la valeur ajoutée des bénévoles. C'est, d'un point de vue d'économiste, qui est aussi le mien, même si j'essaie de ne pas m'enfermer dans ce point de vue économiste, c'est celui qui est le plus satisfaisant. Mais c'est aussi une méthode très délicate, parce que tous les services produits par les bénévoles n'ont pas forcément d'équivalent sur le marché. Donc, on se rabat sur la deuxième méthode, qui est la méthode dite de l'input. C'est-à-dire qu'on prend le temps de travail bénévole et on lui impute un salaire fictif. Se pose alors le problème de quel salaire imputer. Alors, on peut, par exemple, dire, il faut distinguer toutes les tâches faites par le bénévole et imputer à chaque tâche le salaire qu'il faudrait payer à un spécialiste salarié de la tâche. C'est ce qu'on appelle la méthode du spécialiste. Sauf que rares, très rares, pour ne pas dire inexistantes, sont les enquêtes qui documentent suffisamment précisément sur toutes les tâches du bénévole. Donc, on prend plutôt la méthode du généraliste, c'est-à-dire qu'on impute une heure de salaire d'un salarié suffisamment polyvalent pour faire toutes les tâches du bénévole. Oui, ça ne nous dit pas quel salaire, cela. Il faut le choisir après. D'autant qu'il faut aussi répondre à la question, est-ce qu'un bénévole est aussi efficace qu'un salarié ? Vaste question. Vaste question parce que toutes les associations savent très bien qu'il y a des bénévoles qui sont très peu efficaces. Il y a même des associations qui aimeraient bien se débarrasser de certains bénévoles, qui sont plus des boulets qu'autre chose. Mais dans le même temps, il y a aussi des bénévoles extrêmement efficaces qui peuvent l'être beaucoup plus que les salariés. Notamment lorsque les tâches ont une haute intensité relationnelle. Alors, là, il faut faire des hypothèses. Le bénévole est aussi efficace. Vous voyez qu'il faut répondre à toutes ces questions pour obtenir des résultats. C'est dire s'il faut appréhender les résultats avec prudence. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça donne ? L'exercice a été tenté pour la première fois dans les années 90 par Edith Archambault, hein, qui est une universitaire, aujourd'hui prof émérite à Paris, qui a une spécialiste du secteur sans but lucratif. Et puis, bon, bah, j'ai réalisé à plusieurs reprises, avec des collègues, y compris avec elle, ou bien tout seul, l'exercice. Et dans l'ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines, c'est pas de la publicité que je fais là, hein, mais dans l'ouvrage qui est sorti, patronné par Viviane Chernonog sur sa dernière enquête, eh bien, dans le chapitre du travail bénévole, donc, j'ai refait cet exercice à partir des données de 2011. Et là, il vaut mieux que je consulte mes notes, parce que comme ce sont des chiffres, Alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Je ne pense pas. Non, c'est pas ça. J'ai pris deux salaires de référence. L'opération, cette opération-là, hein, dont je parle, pour qu'elle soit crédible, doit se présenter sous forme d'une fourchette. Pas d'une seule valeur, une fourchette. Un intervalle. Qui peut être très large, vous allez le voir. Alors, j'ai pris deux salaires de référence. J'ai pris le SMIC, ce qu'un certain nombre d'associations qui pratiquent ces exercices font aussi, mais pas nécessairement. Il y a d'autres manières de faire, hein, on pourra en reparler aussi. J'ai pris le SMIC. Et puis ensuite, deuxième variante, j'ai pris le salaire moyen du secteur culturel déclaré par les associations de l'enquête. On demande dans l'enquête combien vous avez de salariés, combien vous les payez, combien d'heures de travail. Bon. Alors, le salaire, c'est le salaire. Hein, si vous voulez, le raisonnement intellectuel qu'on tient, c'est combien il en coûterait aux associations si elles devaient remplacer du jour au lendemain leurs bénévoles par des salariés. Donc on prend un salaire chargé, c'est-à-dire avec salaire brut plus ce qu'on appelle, à mon avis indûment, les charges sociales, qui sont des cotisations sociales employeurs. Alors, l'exercice réalisé sur le secteur culturel, là, moi, je l'avais fait dans le bouquin sur l'ensemble du bénévolat, pour aujourd'hui, j'ai fait le calcul sur le secteur culturel, ça nous donne donc une fourchette, vous allez voir, assez large, hein, qui va, alors, au niveau de l'ensemble du bénévolat, au niveau de l'ensemble du bénévolat, hein, ça va de 19,7 milliards d'euros en 2011, avec le SMIC, à 39,5 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près deux fois plus, avec le salaire moyen versé par les associations de chaque domaine. De 1 à 2% du PIB, en gros. Pour le secteur culturel, ça va de 3,5 milliards d'euros avec le SMIC à 8,2 milliards d'euros avec le salaire moyen tel qu'il est déclaré par les associations culturelles. Oui. Mais ils sont, encore une fois, à manier avec prudence et précaution. Pour le secteur culturel, la fourchette, avec une valorisation au SMIC, 3,5 milliards d'euros en 2011, et avec le salaire moyen des associations culturelles, des salariés des associations culturelles, 8,2 milliards. Ce qui, je pense que j'ai épuisé mon temps, dans le premier cas, avec le SMIC, la valeur du bénévolat culturel, la valeur monétaire du bénévolat culturel représente près de 18%, 17,6% de la valeur totale monétaire du bénévolat. Dans le second cas, avec le salaire moyen culturel, 20,8%, c'est un peu plus parce que le salaire moyen dans la culture est supérieur au salaire moyen dans les autres domaines. Voilà.
Merci beaucoup, Lionel. Ça laisse à réfléchir.